France Inter. .com. L'été en pente douce. Guillaume Erner.
Depuis que j'ai commencé cette émission, il m'est déjà arrivé de recevoir des lettres scandaleuses, des demandes sacrément culottées, voire même des missives franchement cyniques. Mais là, ça dépasse les bornes, je suis écœuré. Figurez-vous que le Secours Populaire vient de solliciter mon aide en m'envoyant un magazine intitulé « Alerte Pauvreté », un machin qui ressemble au Figaro Magazine en moins épais, sauf qu'à la place des demeures de charme, on voit un pauvre sous un pont ou sur un carton. Non mais les pauvres, vous pouvez pas nous lâcher la grappe. Vous croyez que c'est le moment ? Vous pensez qu'avec le CAC en berne, la croissance molle en Europe, l'affaire Bettencourt et ses victimes collatérales, on n'a pas mieux à faire qu'à écouter les géniardises de chômeurs en fin de droit ? Je lance un appel solennel aux pauvres. Arrêtez de m'écrire, on vous filera rien. Et en plus, par les temps qui courent, vous allez finir par nous porter la poisse. D'ailleurs, les pauvres, c'est quoi, monsieur Balkany ?
Ce que vous appelez les pauvres, je suis désolé de vous le dire, c'est des gens qui gagnent un peu moins d'argent. Mais comme ils gagnent moins d'argent, ils ont les mêmes logements que les autres, sauf que eux les payent moins cher. Et ils vivent très bien. Nous n'avons pas de misère en France.
Il faut donner plus à ceux qui ont déjà tout. Améliorons le bouclier fiscal, créons une société du miles. Vous savez, ces points que les compagnies aériennes accordent à ceux qui voyagent le plus. Plus vous voyagez, plus vous pouvez voyager, plus vous gagnez des points et donc des billets gratuits. Étendons ce système qui permet d'offrir des billets gratuits à ceux qui, de toute façon, auraient largement eu les moyens de se les payer. Riches de tous les pays, unissez-vous. Les masses dispendieuses se lèvent à Monaco, à Neuilly et à Saint-Tropez. Debout les nantis de la terre, les multinationales seront le genre humain. Apprêtons-nous à recevoir le saint patron des riches, le seul saint qui ne fait pas de cadeaux, Saint-Sylvestre, Jean-Marc Sylvestre.
Oui ?
L'argent ne dort jamais, petit gars. Je viens de me faire 800 000 sur l'or à Hong Kong. Je te les ai fait virer. Amuse-toi avec. Tu as bien bossé, mais ne te relâche pas. Continue. Tu entends ? Épate-moi, je veux des tuyaux. Comment et où tu les trouves, ça m'est égal. Mais trouve.
We'll be right back.
y a le cas qu'a plus la niaque, c'est le chaos sur l'île d'Aros. En somme, le métier de riche n'est pas aisé à exercer par les temps qui courent. C'est en pensant à eux, en pensant à cela, que j'ai souhaité inviter quelqu'un qui s'est penché sur leur triste sort, l'économiste Frédéric Lordon. Bonjour Frédéric.
Bonjour.
Depuis une vingtaine d'années, Frédéric Lordon poursuit son travail d'économiste hétérodoxe, comprenez, d'économiste minoritaire. En mars 2010, il a publié un article dans Le Monde diplomatique intitulé « Si l'on fermait la bourse », une sorte d'alternative en quelque sorte au bouclier fiscal. Alors, faut-il fermer les bourses ? Faut-il fermer... Faut-il empêcher les riches de gagner leur existence ? Eh bien, voici un point de vue orthodoxe sur la question.
Et croyez-moi, Madame Bettencourt, qui est propriétaire de L'Oréal, je souhaite qu'elle reste propriétaire de L'Oréal et que L'Oréal, 17 milliards de chiffre d'affaires, 64 000 employés, ne parte pas dans un autre pays, parce qu'à ce moment-là, qui le paierait ? Qui le paierait ? C'est pas les commentateurs, c'est les salariés qui perdraient leur emploi. Et ça, je ne le veux pas.
Les commentateurs commentent, les politiques agissent. Alors, Frédéric Lordon, vous avez remis en cause un dogme qui était non seulement celui de l'utilité sociale des actionnaires, mais même plus généralement l'utilité sociale de la bourse.
Et je crois que le cas Bettencourt est presque idéal. Alors, à la condition, pour en tirer toutes les leçons, de le départiculariser et de prendre le problème dans toute sa généralité. Que font les riches de leur fortune ? Alors, je passe sur les tours et détours de l'évasion fiscale, mais à la fin des fins, tout ça se retrouve propulsé sur les marchés financiers et en particulier à la bourse. Alors je dis en particulier parce que la bourse est devenue une espèce de mot-valise, même un fourre-tout dans lequel on confond toutes les activités indistinctement de la sphère financière.
Alors de quelle bourse parlez-vous ?
Alors, la bourse, stricto sensu, ce sont les marchés d'actions. Et cela seulement. Et c'est de cela seulement que parle l'article auquel vous avez fait référence.
Donc, en fait, vous voulez fermer les marchés actions.
Voilà. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, envoyer l'argent des riches à la bourse ? Est-ce que, notamment, ça signifie contribuer au développement de l'économie, comme on vient de l'entendre de la part du non-commentateur dont vous nous avez restitué les propos ? Le sens commun, très aidé du sens idéologique, répond spontanément oui. Et il dit oui en ajoutant ceci. La bourse, par définition, est le lieu où les entreprises vont se financer. Elles vont y lever des capitaux propres. Donc, apporter de l'argent à la bourse, c'est le transmettre aux entreprises. Par conséquent, c'est aider à leur financement et leur développement.
Voilà, la bourse, ça sert à financer des entreprises. Et s'il n'y a pas de riches, il n'y a pas de financement aux entreprises. Donc, les pauvres chôment.
Sauf que ce raisonnement est faux presque de bout en bout. Plus exactement, il n'est vrai que dans l'infime minorité des cas où l'argent s'investit en bourse pour souscrire à des nouvelles émissions d'actions qui sont lancées par les entreprises.
Nouvelles émissions d'actions, ça veut dire en fait la première fois qu'une entreprise s'introduit en bourse, elle vend des actions.
Alors cette première fois-là est quand elle y revient pour lancer de nouvelles tranches d'actions pour lever des moyens financiers. Et dans ce cas, en effet, l'argent est apporté en contrepartie de ces nouvelles actions émises. Et oui, cet argent va à l'entreprise émettrice. Contribue à son financement, aide à son développement, etc., etc. Et ça, c'est le cas idéal à partir duquel on voudrait construire la totalité du discours de la bourse et de l'utilité sociale et de la bienfaisante présence des riches. Sauf que ce cas est ultra minoritaire, et c'est là le problème. Parce que dans la majorité des cas, dans l'écrasante majorité des cas, l'argent est investi en bourse pour acheter des titres qui sont déjà en circulation, donc qui ont été émis de longue date. Et ces titres sont achetés non pas à des entreprises émettrices, mais à d'autres opérateurs financiers, des fonds de pension, des caisses d'assurance, des investisseurs institutionnels, des banques, d'autres opérateurs financiers qui, eux, sont vendeurs. Et toute cette petite activité se déroule sur ce marché qu'on appelle le marché secondaire.
Alors, pour qu'on vous comprenne bien, Frédéric Lordon, le marché secondaire, c'est un marché où des individus, des fonds de pension spéculent, comme on dit, c'est-à-dire ne participent pas directement au financement des entreprises, mais en fait s'échangent entre eux des titres qui ont déjà été cédés il y a quelque temps par les entreprises émettrices.
C'est exactement ça. Le marché secondaire se défini par opposition au marché primaire, qui est le marché très étroit des nouvelles émissions. Et à proprement parler, le marché secondaire peut bien être dit le marché de la spéculation. C'est-à-dire, c'est le marché où circulent des titres anciens, qu'on achète dans le seul espoir de les revendre plus tard avec plus-value, et qu'on achète non pas à des entreprises, mais à d'autres investisseurs financiers. De sorte que, lorsque M. Demestre ou Mme Woerth, gestionnaire de la fortune de Mme Bettencourt, propulse son cash en bourse, il ne contribue nullement au financement des entreprises, sauf si ils souscrivent à de nouvelles actions émises par L'Oréal. Mais ça n'arrive pas tous les quatre matins. Ce qui fait qu'en règle générale, cet argent investi s'insère plutôt dans la circulation spéculative et improductive du marché secondaire.
D'accord. Alors, donc, cela signifie que ceux qui investissent en bourse de cette manière-là ne le font, d'après vous, que pour s'enrichir eux-mêmes en espérant, donc, non pas contribuer au développement des entreprises, mais tout simplement en espérant gagner de l'argent en revendant les titres qu'ils ont acquis. Alors, néanmoins, ce que l'on peut dire, c'est que ces gens-là constituent l'aiguillon du capitalisme. C'est-à-dire que comme ils possèdent des titres d'une entreprise, eh bien, ils ont la possibilité de l'orienter en lui permettant donc de gagner plus d'argent, d'être plus prospère et donc de favoriser la croissance de la société. Donc, ces riches-là, ils sont utiles, Frédéric Lordon.
Eh bien, il va falloir déconstruire la totalité du discours boursier, dans le prolongement d'ailleurs de ce que je viens de dire, parce que la répartition des activités entre marché secondaire et marché primaire répond à la célèbre recette du pâté d'alouette. Une alouette de transactions sur le marché primaire pour un cheval de transactions sur le marché secondaire. Et la chose vient de ce que les émissions d'actions par les entreprises se sont considérablement raréfiées. Et pourquoi ? Eh bien, le paradoxe, c'est que les actionnaires eux-mêmes découragent ces émissions. Et ils les découragent parce que si les émissions se multiplient, alors le profit global de l'entreprise va se trouver partagé sur un nombre croissant d'actions, de sorte que, mécaniquement, le bénéfice par action va baisser. Or, le bénéfice par action est l'un des déterminants les plus puissants du cours boursier. Si le bénéfice par action baisse, le cours boursier va baisser à son tour, et ça, les actionnaires n'aiment pas du tout. Donc, vous voyez, le paradoxe est double. Il vient de ce que ce sont les actionnaires eux-mêmes qui poussent les entreprises à se financer, non pas en émettant des actions comme on le croit, mais en recourant à l'endettement. Et deuxièmement, de ce que les marchés boursiers qui ont été libéralisés sous couleur d'encourager le financement par action des entreprises ont produit le résultat exactement inverse. De sorte que la bourse se résout en une espèce d'énorme bazar spéculatif, presque auto-centré, et devient une sorte d'énorme machine dissipative où des sommes immenses s'investissent, la part de ces sommes qui va au financement direct des entreprises est minime, et tout le reste, qui est l'écrasante majorité, ne fait que nourrir l'inflation spéculative des actifs boursiers. Donc, les prix s'envolent, les bourses caracolent, les investisseurs financiers prospèrent, mais pour ce qui est du développement des entreprises, on repassera.
C'est-à-dire, vous voulez dire, en fait, que depuis le XVIIe siècle en Hollande, où on spéculait sur des bulbes de tulipes, eh bien, finalement, la rationalité, le fait de trouver une bonne raison à investir en bourse est toujours la même, c'est permettre aux individus de s'enrichir et pas du tout avoir une efficacité sociale dans l'argent qui est placé en bourse, Frédéric Lordon.
Absolument. Le propre du jeu spéculatif, c'est qu'il est auto-centré, il est refermé sur lui-même, il n'est pas absolument sans connexion avec le développement de l'économie, mais ses connexions sont absolument ténues et pas du tout à la hauteur de ce que prétend le discours boursier en général.
Bon, alors, malgré tout, ces gens qui ont la chance de posséder une partie des entreprises en possédant des actions de ces entreprises, ils ont tout intérêt à ce que ces entreprises fonctionnent bien, donc ils vont les surveiller, donc ils vont faire leur boulot d'actionnaire et par conséquent, ils vont aider notre entreprise et nos sociétés à mieux fonctionner.
Alors ça, c'est le deuxième couplet du gospel actionnarial, en effet, qui pourrait se chanter en trois temps. Alors, premier temps, les dirigeants des grandes entreprises s'endorment sur leur rente de situation. Deuxième temps, il faut du dehors les aiguillonner un peu. Voilà. Il faut les réveiller, il faut leur faire retrouver le sens de la productivité et de la rentabilité. Troisième temps, les actionnaires sont finalement les mieux placés pour tenir ce rôle-là. Et là encore, patatras, tout est faux. Les actionnaires ne sont mus que par une chose, le rendement de leurs capitaux propres. En anglais, ROE, Return on Equity. Et le pouvoir qu'ils ont acquis sur les directions d'entreprise les ont conduits à exiger des rendements qui sont maintenant de plus en plus élevés. Il faut tout de même se souvenir que dans les 30 années du Fordisme, entre 45 et 75, les taux de rendement des capitaux propres...
Le Fordisme,
propres,
c'est le développement des 30 glorieuses,
voilà, c'est ça.
L'économie de croissance.
Exactement. Les taux de rendement des capitaux exigés par les actionnaires étaient de l'ordre de quelques pourcents à peine. Lorsqu'elle est privatisée en 93, la BNP sort un taux de rendement de ses capitaux propres qui est de l'ordre de 2 à 3%. La même en 2006, c'est-à-dire plongée dans le bain actionnarial, sort un ROE de 25%. On voit la dérive.
Eh ben, très bien, ça veut dire que les actionnaires ont réussi à faire cracher la bête et à
exactement,
permettre...
mais ils l'ont fait cracher pour eux seulement. Et en effet, ils exigent maintenant même des entreprises industrielles des taux de 15, 20, 25% comme on le sait. Or, le problème...
Donc l'économie est plus rentable grâce à eux, Frédéric Lordon.
Elle n'est rentable que pour eux. Car, précisément, le problème, c'est que tous les investissements ne passent pas une barre qui est aussi haut placée. Et ces investissements qui ne passent pas la barre sont purement et simplement retoqués. On en est donc arrivé à une solution tout à fait à une situation tout à fait extravagante où, par exemple, des sites industriels sont fermés non plus parce qu'ils sont déficitaires, ce qu'on pourrait à la rigueur comprendre, mais parce qu'ils sont insuffisamment rentables. En 2006, par exemple, Nestlé ferme son site de Saint-Menay parce qu'il ne crache que 9% pour les actionnaires alors que la norme du groupe est 11%. On voit tout de suite le problème. Or, et c'est là que le système actionnarial se montre d'une cohérence tout à fait perverse, on voit bien que des investissements qui peuvent sauter une barre de 11%, 15%, 20%, ça ne court pas les rues. Ça ne se trouve pas sous le sabot d'un cheval. Donc, la contrainte actionnariale censure tous ces projets d'investissement qui seraient rentables, qui contribueraient au développement économique, au maintien de l'emploi. Moyennant quoi, les entreprises interdites d'investir par leurs actionnaires mêmes se trouvent assises sur des tas d'or dont elles ne savent que faire. Donc on appelle ça le cash oisif.
Donc ça veut dire que finalement, elles ne favorisent pas la rentabilité du capital, contrairement à ce qu'elles disent, Frédéric Lordon.
C'est presque pire que ça. Ou plus exactement, elles ne favorisent que ça, mais du point de vue des actionnaires. Parce que ce que voyant, les actionnaires se pointent, et très logiquement, mais d'une logique assez perverse, disent aux entreprises « Mais puisque vous avez tout cet argent dont vous ne savez que faire utilement, rendez-le nous donc ». Et on va le restituer sous la forme de dividendes, de rachats d'actions, etc., etc.
Rendez-le à notre petite entreprise Bachung.
Des trésors satinés, dorés à souhait. J'ordonne une expertise, mais la vérité m'épuise. Inlassablement se dévoile de mes doigts de palper là cet épiderme qui fait que je me dresse, qui fait que je bosse. Le lundi, le mardi, le mercredi, le jeudi, le vendredi, de l'aube à l'aube, une partie de la matinée, et les vacances, abstinence. Ma petite entreprise, ma locomotive, avance au mépris des sémaphores, le tir du néant. Qu'importe l'amour s'exporte, qu'importe le porte-à-porte en Crimée, au sud de la Birmanie, les lobbies en Libye, au Laos, là j'écoule à mes oreilles, ma petite entreprise, connaît pas la crise, s'expose au firmament. Gère la reprise, embauche de gauche, inlassablement on se dévoile, et mes doigts de palper là cet épiderme qui fait que je souque, qui fait que je toque à chaque palier, escalier, c'est bâtiment B. À l'oreille de ce lèvre. À mes oreilles, ma petite entreprise connaît pas la crise, épanouie et l'exhibe des trésors satinés, dorés à souhait. Le lundi, le mardi, le mercredi, le jeudi, de l'aube à l'aube.
lundi, le mardi, le mercredi, le jeudi, le vendredi. De l'eau, de l'eau.
Il y a plus de travail pour les ouvriers finalement que pour nous, parce qu'on a notre branche et c'est très particulier.
Et vous, quelle profession présentez-vous alors ?
Ben, on est les jeunes directeurs de banque et on trouve pas de boulot parce que ils se créent pas d'emploi, parce que il y a pas de banque nouvelle qui se forme, qui s'ouvre. Et bien sûr on a du pognon. Les gens ils disent ah ben ils ont du pognon. Et alors il y a du pognon et alors ? On va pas faire les barricades avec nos bagnoles, elles sont toutes neuves.
L'été continue à se descendre sur France Inter en compagnie de Frédéric Lordon, l'économiste Frédéric Lordon, lequel propose tout simplement de fermer la bourse parce que, selon vous, Frédéric, la bourse est anti-financière. Qu'est-ce que c'est que ce paradoxe ?
En effet, c'est bien comme ça qu'il faut l'appeler. C'est le grand paradoxe de la déréglementation des marchés de capitaux en général et des marchés boursiers en particulier.
Donc ça veut dire que la bourse ne remplit pas son rôle de financement des entreprises.
Mais moi, je trouve qu'il faudrait soumettre la bourse à ses propres critères, en redéfinissant ces critères de manière un peu généralisée, c'est-à-dire la bourse a pour critère le rendement. Quel est le rendement de la bourse ? Quel est son rendement en tant que forme institutionnelle ? C'est-à-dire quelle est sa contribution véritable au financement de l'économie ? Importante ? Nulle ? Négative ? C'est ça le paradoxe. Or, pour se faire une idée juste de cette contribution de la bourse au financement des entreprises, il faut avoir le tableau au complet. Et dans le tableau, il y a cette énorme part du jour repos centré de la circulation spéculative, il y a des petits flux qui tout de même vont des actionnaires aux entreprises, mais surtout, la chose très étonnante, c'est qu'il y a des flux qui vont en sens inverse.
C'est-à-dire, expliquez-nous.
Des entreprises aux actionnaires. Et depuis deux décennies, ces flux sont devenus de plus en plus importants.
C'est-à-dire qu'en fait, les actionnaires pompent la richesse des entreprises.
C'est exactement ça. Et sous deux formes. La première, c'est les dividendes que les entreprises doivent payer chaque année à leurs actionnaires. Entre 82 et 2006, ces dividendes, mesurés en part du produit intérieur brut, sont passés de 3,2 à 8,5%. Ça a été multiplié par plus de 2,5. C'est aussi une mesure de la croissance de l'emprise actionnariale sur les sociétés. Et il y a une deuxième composante qui est d'apparition plus récente, mais qui est particulièrement vicieuse, qui s'appelle les buybacks. Alors, qu'est-ce que c'est les buybacks ? C'est ces opérations par lesquelles les entreprises rachètent leurs propres actions. Là, on sent pointer le paradoxe, parce qu'on se dit la bourse, c'est le lieu où les entreprises vont vendre leurs nouvelles actions qu'elles viennent d'émettre. Et les voici qui viennent à la bourse pour racheter les anciennes actions qu'elles ont émises. Alors, on se demande, mais quel est le sens de cette aberration ? Mais je l'ai donné tout à l'heure et il suffit de le lire en sens inverse. Si les entreprises rachètent leurs actions, elles diminuent le nombre des actions en circulation, donc elles augmentent mécaniquement le bénéfice par action, donc elles pèsent à la hausse sur le cours boursier. Et ça, les actionnaires aiment. Ils aiment beaucoup et ils aiment même tellement qu'ils soumettent les directions d'entreprise à des pressions constantes pour leur faire faire les unes après les autres des opérations de buyback. Donc, par exemple, c'est la stratégie rustique maintenant, mais efficace, pour complaire aux actionnaires, pour les mettre de son côté, notamment, par exemple, dans les moments difficiles.
Alors, évidemment, pour vous, ça pose problème, Frédéric Lordon, parce que cet argent qui sert aux entreprises à racheter leurs propres actions ne va pas à l'investissement.
C'est exactement ça, et on peut le voir au travers d'un cas qui est particulièrement illustratif. En 2006, lorsque Arcelor est l'objet d'une OPA hostile de la part de Mittal. Le premier élément de stratégie défensive qui est mis en œuvre par la direction, c'est de lancer un vaste plan de rachat d'actions de l'ordre de 5 milliards d'euros. Il faudrait mettre en francs pour avoir l'idée des ordres de grandeur. C'est 5 milliards d'euros qui sont détournés de l'investissement. Je ne dis même pas du maintien de l'emploi ou de la hausse des salaires, ça serait ringardissime. Mais voilà le genre de manœuvre auquel on assiste. Et ces sommes, à part ce cas, ces sommes sont devenues chroniques et atteignent des proportions qui sont phénoménales.
Mais alors, si ce que vous dites est vrai, dans ce cas-là, on devrait voir bientôt des entreprises à bout de souffle, Frédéric Lordon, parce que, faute d'avoir investi, eh bien, elles se retrouveraient dans l'incapacité de continuer à être performantes, d'avoir un outil industriel à la hauteur.
Alors, non, car elles ont plein d'autres sources de financement par ailleurs, mais je voudrais insister quand même sur ce point, parce qu'il est vraiment tout à fait important. Aux États-Unis et au Royaume-Uni, qui sont, comme vous savez, les modèles universellement offerts à notre admiration, où le capitalisme financiarisé connaît ses plus hauts degrés d'accomplissement. Les sommes qui sont extorquées par les actionnaires aux entreprises l'emportent sur les fonds qui sont apportés. De sorte que la contribution nette des marchés d'actions au financement des entreprises est devenue négative. Les actionnaires pompent plus de cash aux entreprises qu'ils ne leur en apportent. De sorte qu'on peut dire que non pas la bourse finance les entreprises, mais que ce sont les entreprises qui financent la bourse. On a donc cette situation extraordinaire où la bourse a été libéralisée pour développer le financement par fonds propres des entreprises, mais où premièrement, elle est pour l'essentiel cette gigantesque machine dissipative et spéculative, et pour le reste, elle est devenue en effet une machine anti-financière.
Alors, donc vous proposez de fermer la bourse, Frédéric Lordon, par quoi remplace-t-on la bourse si les entreprises ne peuvent plus aller sur le marché actions pour se financer?
Mais c'est très simple, il suffit de regarder d'ailleurs quelle est la situation actuelle des entreprises. Comment font-elles concrètement? Et les PME, la plupart des entreprises se passent de financement par la bourse. Les PME, tout simplement, parce qu'elles n'y ont pas accès. Or, les PME, vous le savez, c'est la majorité du tissu industriel français. Mais le paradoxe, c'est le plus goûteux, c'est pour les grandes entreprises du CAC 40, celles qui seraient le plus susceptibles de tirer parti des bienfaits de la bourse.
Qu'est-ce qu'elles font?
Elles font des choses très très simples. Découragées par leurs actionnaires même de lever des actions, elles se financent par de la dette, soit en levant des obligations sur d'autres marchés de capitaux.
Alors, les obligations, c'est une forme d'emprunt un peu particulier pour les entreprises.
Exactement, c'est une forme d'emprunt qui passe par des marchés de capitaux. Soit, pour l'essentiel, par le crédit bancaire. Le bon vieux crédit bancaire à la papa. Voilà le système alternatif du financement. Il est connu de longue date, il marche bien, etc.
Mais alors, votre article est intitulé « Et si l'on fermait la bourse ?» En réalité, si j'ai bien lu cet article, Frédéric Lordon, ce que vous suggérez, c'est de changer les périodes durant lesquelles on peut effectuer des opérations boursières, parce qu'aujourd'hui, on le sait, eh bien, il y a des gens qui spéculent sur les actions et qui, du coup, achètent des actions pour quelques heures pour les revendre. Vous souhaitez, par exemple, changer ce système-là?
Alors, c'est une question un peu compliquée qui permettrait, dans un premier temps, de revaloriser le rôle du marché secondaire.
Le marché sur lequel on rachète des actions qui ont déjà été vendues.
La présence de ce marché secondaire, il faut le dire avec honnêteté, a un sens. Ce sens, c'est celui de cette propriété financière qu'on appelle la liquidité. Qu'est-ce que c'est la liquidité? C'est la possibilité qui est offerte à un investisseur financier de sortir à tout instant de son investissement en vendant tout simplement son titre sur le marché. Et en le vendant dans de bonnes conditions parce qu'il y a un grand volume d'activité qui va absorber tout ça.
Donc évidemment, vous ne souhaitez pas que les entreprises ne soient plus vendables, Frédéric Lordon.
Ah, ça serait une grande discussion, hein, ça. Il faudrait là, parce que pour le coup, si vous voulez, moi j'ai un arsenal de ripostes graduées contre la bourse. Le plus petit degré de la riposte, c'est effectivement celui auquel vous avez fait référence, c'est-à-dire transformer les conditions de la cotation des entreprises en bourse. Le deuxième degré, c'est la fermeture de la bourse. Donc là, ça, c'est déjà un petit peu plus radical.
Restons au premier degré pour être sûr de bien vous comprendre. Changer les situations de cotation des entreprises, ça veut dire, par exemple, obliger les gens qui achètent des actions à les conserver, par exemple, une semaine, un mois.
Il y a un sens à des structures particulières destinées à servir la liquidité financière, car en effet, c'est un moyen. Promettre aux investisseurs financiers la réversibilité, c'est un moyen de faire venir des capitaux en plus grand nombre. La question est de savoir quel degré de réversibilité on leur accorde. Est-il légitime que les actionnaires qui ont déjà tous les droits, qui perçoivent dividendes, plus-values, etc., est-il légitime qu'ils n'aient au surplus aucun devoir en contrepartie? C'est-à-dire, en particulier, qu'ils puissent aller et venir dans les capitaux des entreprises 3 ou 4 fois la journée, alors que l'investissement industriel, lui, s'engage pour des horizons temporels très très longs, prend son risque et fait face à la contrainte d'irréversibilité. Je dis que la liquidité instantanée est une propriété qui est exorbitante et qui n'est pas justifiée. On pourrait accorder la possibilité de la liquidité aux actionnaires, mais en espaçant les droits d'exercice dans le temps, pas à tous les instants comme c'est le cas actuellement. CAC, vous savez, veut dire cotation assistée en continu. C'est-à-dire, continuellement, à tout instant, on peut se barrer quand on est actionnaire. Je pense qu'il ne serait pas illégitime de contraindre les actionnaires à rester un certain temps. C'est-à-dire, on pourrait discuter un mois, un trimestre. Ce n'est pas exorbitant, hein, il me semble, de leur octroyer le droit de sortie tous les mois ou tous les trimestres. Ça leur donnerait un petit peu plus le sens du long terme, quoi.
Frédéric Lordon, dernière question. On dit que la bourse peut être une excellente solution pour permettre à tous ces retraités qui, justement, auront de moins en moins de pensions de retraite, eh bien, de placer leur argent pour leur permettre donc d'avoir une rente que l'État ne pourrait plus être en mesure de leur offrir. Alors, la bourse, au moins, ça pourrait servir à ça.
Double mensonge. Aucun système de retraite, quel qu'il soit, répartition, capitalisation, quelle qu'en soit la nature, aucun système de retraite n'est immune au choc démographique. chacun l'accommode à sa façon. La retraite par répartition, on le sait, on n'arrête pas de nous rebattre les oreilles avec ça. Mais un système de capitalisation tout autant, parce que lorsque la bosse démographique des retraités arrive à échéance et que tous ces gens-là réalisent leurs avoirs financiers pour les vendre, pour liquider leurs pensions et toucher leur retraite bien méritée, les marchés financiers deviennent vendeurs nets. Parce qu'il y a des sommes colossales.
Il y a trop de personnes qui vendent.
Il y a trop de personnes qui
vendent. Il n'y a personne qui achète.
Alors ça exerce des pressions considérables sur les prix des actifs. Et en moyenne période, ça peut conduire à des marchés boursiers qui sont dépressionnaires avec des cours qui baissent. Et donc, les avoirs des retraités futurs qui viennent derrière, qui se cassent la figure. Je rappelle également pour mémoire que de longues séquences historiques de marchés financiers, de marchés boursiers baissiers, ça existe. Le Japon a vécu 2 décennies. Avec une bourse continuellement orientée à la baisse qui a perdu les 3/4 de sa valeur. Malheur aux retraités japonais qui ont dû exercer leurs droits pendant cette période. Et au sortir de la crise financière, les fonds de pension ont perdu leur liquette. Et les salariés américains sont contraints eux aussi d'aller travailler plus longtemps parce que le système de la capitalisation n'est pas plus efficace que le système de la répartition. Il l'est même moins sous bien des rapports.
Et si l'on fermait la bourse par Frédéric Lelordon et si l'on ouvrait le bar par Raphaël ?
D'où vient le vent du matin ? Que le jour chasse en chemin. Où s'en vont les poussières qui brûlent nos yeux, nous troublent la vue et nous rendent amoureux. Des plumes dans les cheveux et rien dans les mains. Se coudre les paupières pour ne plus voir rien. C'est dans ma nature, c'est dans mon sang. Un poison violent mélange de mes parents. Est-ce mon squelette au bar de l'hôtel? Est-ce